Salut à tous. Backseat, c'est LE talk show d'actualité politique sur Internet. Si tu veux soutenir l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour faire un don du montant que tu veux ou alors pour faire un don mensuel.
Alors bon, l'actualité cette semaine, quand on a fait la conférence de rédac hier pour préparer Backseat, on s'est dit non mais il va quand même falloir qu'on fasse un point Bayrou quand même. Non parce que là, bon, en tant qu'observateur avisé de la vie politique, on constate que François Bayrou, ça va pas fort en ce moment. Son gouvernement prend l'eau, il y a des couacs à répétition, il y a des casseroles qui s'enchaînent, l'affaire Bétarame, ça avait déjà mal commencé l'année, mais surtout des dissensions au sein de son propre gouvernement, que ce soit sur le voile, sur Bruno Retailleau qui menace de claquer la porte sur la question algérienne, la remise en question du conclave sur les retraites. Sérieux, vous pensez que ça peut durer longtemps, cette affaire, François Bayrou, au gouvernement, là ?
Franchement, pour moi, les paris sont ouverts. Je pense qu'il ne passe pas le printemps, justement.
Ah ouais ?
Franchement, je pense que vers les congrès, c'est vers juin. Oui. Ouais, je pense que juin, max, il saute. Comme en plus, ça fera un an et du coup, on pourra refaire une nouvelle dissolution. Tout. Selon le résultat de Marine Le Pen, est-ce qu'elle est inéligible ou pas ? Je pense que juin, il saute, ouais.
Malek ?
Il y a une petite musique qui circule. J'aime trop cette expression de petite musique. C'est très politique. Hein. Mes potes me reprochent à chaque fois de parler de petite musique. Mais il y a cette petite musique qui tourne un petit peu depuis hier sur des présidents de groupe à l'Assemblée qui seraient en train de discuter d'une future motion de censure, notamment après la phrase de François Bayrou sur le conclave retraite, parce qu'il pourrait avoir une majorité, en réalité, qui se réunirait sur cette question des retraites. On sait que le RN avait déjà voté une motion en brandissant les retraites comme un argument. Ça pourrait être aussi l'occasion de voir une gauche réunie après la sortie de route du Parti Socialiste sur le dernier vote.
Sur le budget, ouais.
Donc, peut-être que, en tout cas, ouais, les paris sont ouverts.
Moi, ce que je me dis, c'est que, en fait, le gouvernement de François Bayrou, c'est un gouvernement de briques et de brocs, de gens qui n'ont pas particulièrement envie de gouverner ensemble. On est sur un macronisme vieillissant. Et tout le monde pense à l'avenir, et c'est normal. En politique, tout le monde pense à l'avenir. Et là, en fin de règne, qui a véritablement envie de défendre cet attelage-là ? Qui croit à l'avenir de François Bayrou ? Personne. Et donc, chacun regarde midi à sa porte, chacun regarde son prochain congrès, sa prochaine élection. Et effectivement, Édouard Philippe est d'ores et déjà candidat. Gabriel Attal, il soutient du bout des lèvres, contraint et forcé, parce qu'il faut bien.
Et encore.
Et les Républicains, bonjour. Enfin, les Républicains, entre Darmanin et Retailleau qui menacent de se barrer. En fait, il ne reste plus que le MoDem en fait, pour soutenir François Bayrou. Donc, je me dis qu'en fait, je regarde cet attelage et j'ai vraiment l'impression qu'il ne tient que par les circonstances. Et effectivement, Lorraine, sur l'idée que le gouvernement pourrait ne pas tenir, pour moi, ça ne dépend pas tant du gouvernement que du reste des oppositions. Ce qui a fait tomber Barnier, c'est une alliance de circonstances entre la gauche et le RN sur une motion de censure, sur une même motion de censure. Effectivement, le sujet retraite peut être le sujet sur lequel la gauche et le RN votent main dans la main l'été prochain, le départ du gouvernement de François Bayrou.
Et ce qui t'ouvre après la perspective à partir de juillet de refaire une dissolution. Le président nous a dit que non, il n'y aura pas de dissolution, mais... À un moment, c'est pays ingouvernable.
Il a surtout dit qu'il ne se barrait pas.
Attends, moi, je redis toujours qu'attention, s'il y a censure de Bayrou, il n'y a pas dissolution automatiquement. Il y a aussi potentiellement l'option alliance avec une partie de la gauche.
Oh, bah oui.
Bah, alors là,
il ne rêve plus de ça, je pense.
Celui qui te fait aujourd'hui l'accord avec Macron, il se crève pour 2027.
Ouais, c'est sûr.
Ok. Sauf que là, en réalité, on en parlera après, mais il n'y a que des gens qui ont envie d'être sur la ligne de départ de 2027.
Ouais, c'est vrai, on en parlera. Émilien, t'en penses quoi, toi ? Bayrou, il a un avenir ou c'est comment ?
Alors, il n'a personnellement pas d'avenir. Mais la question du gouvernement, c'est, je pense, se pose, mais en fait, en interne, parce que comme tu l'as dit, c'est un gouvernement qui n'a pas été créé sur la base d'un accord programmatique. Il faut se souvenir encore de Barnier. En fait, il nomme Barnier, il met deux, trois, je ne sais plus combien de temps.
Deux mois.
À pondre son gouvernement. Et en fait, ça se base sur le soutien de différents partis à différents membres du gouvernement. Mais tout ça ne fait pas, en effet, quelque chose de cohérent. Donc la question sera aussi, outre évidemment le possible alliance de la gauche et du RN sur le sujet retraite, de savoir est-ce que finalement les différents composants de la majorité minoritaire marcheront ensemble ? Est-ce que les LR, au bout d'un moment donné, ont envie de partir pour une raison ou une autre ? Est-ce que, j'y crois pas trop, mais est-ce que la partie gauche de la Macronie se révoltera contre les options LR, je crois pas trop non plus, parce que le gauchiste de service pour l'instant c'est Édouard Philippe, donc ça dit quand même des choses de la coalition. Donc je pense que c'est finalement, peut-être cette espèce de mollesse du gouvernement où, en fait, on peut s'adapter, quelqu'un gueule, bon, okay, on lui donne quelque chose, on fait des actes, enfin, on est définitif sur rien, qui fait que peut-être que ça pourra tenir encore un peu, mais jusqu'à 2027, effectivement, j'en doute assez.
J'ai du mal à imaginer qu'en tout cas, à court terme, on réunisse une majorité sur une motion de censure. Tu l'as dit, Malek, il y a eu ce traumatisme à gauche au début de l'année sur le soutien à un budget et non pas à un gouvernement, si on s'en tient aux déclarations des socialistes. Qu'est-ce qui ferait que les socialistes censureraient François Bayrou? Là, une opportunité leur est offerte avec ces déclarations de François Bayrou qui enterre le conclave. Le conclave, pour celles et ceux qui ne l'ont pas, c'est le surnom qu'on a donné à une négociation de 3 mois entre les partenaires sociaux sur les modalités de financement de notre système de retraite. Lancée notamment parce que les socialistes l'ont demandé, et lancée sans tabou, sous-entendu, on peut rediscuter aussi de l'âge légal de départ à la retraite, on n'est pas bloqué sur 64 ans, on laisse et on fait confiance aux partenaires sociaux pour en discuter. Bon, bah, François Bayrou, dans une interview, a fini par enterrer ça en disant qu'un retour à 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite n'était pas possible, et sous-entendu, pas souhaitable non plus. Donc il ne le ferait pas, et que, quelle que soit la fin du conclave. Donc, Je ne sais pas si ça, c'est suffisant pour permettre aux socialistes de mettre fin à leur soutien à François Bayrou. Tu vois, pour l'instant, ils s'en tiennent à la CFDT, comme d'habitude, les socialistes. Tant que la CFDT reste dans le conclave, ils restent aussi.
Alors, on est dans un contexte de congrès, on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Il y a les LR qui sont dans leur congrès, mais le Parti Socialiste aussi. Et les opposants de Faure ont milité et pas avec peu de force pour ne pas voter la motion de censure en janvier dernier. On peut faire que le constat qu'en réalité, ils ont échoué. Ils ont vanté des « bougers », je mets de grosses guillemets, je déteste ce terme, il va falloir arrêter de me parler de « bougers ».
Ouais, c'est à chier. Ouais.
C'est à chier. Et il y avait ce fameux, enfin c'était l'argument principal, c'était de dire « ah mais regardez, on a réussi à ouvrir le débat sur les retraites ». La suite de l'histoire, bah c'est Bayrou qui, à la tribune de l'Assemblée nationale, se fout des socialistes, ouais. C'était il y a quelques semaines, une humiliation en règle, en réalité, pour tous ceux qui appelaient au
moment de la motion de censure des socialistes.
Mmh. Exactement. Et aux motions de censure des socialistes qui, en réalité...
C'était la fameuse motion que c'est pas grave, il faut pas qu'elle passe.
Voilà, c'est la première motion, faut pas qu'elle passe. Mais bon, soit. Et donc, il y a eu un échec, en réalité, de cette stratégie des opposants d'Olivier Faure. Donc là, ce qui fait que... Parlons un petit peu du congrès du Parti Socialiste rapidement. Olivier Faure est candidat à sa succession. Voilà. Nicolas Meyer-Rossignol, qui avait déposé aussi un texte au dernier congrès, est toujours candidat, en tout cas, a envie de déposer un texte également. Hélène Geoffroy, représentante des Hollandais, également. Mais il y a des petites nouveautés au sein du PS. Il y a Boris Vallaud, qui a toujours été un soutien d'Olivier Faure et qui fait un pied de côté et qui a envie... d'unité de déposer son texte. Il y a Carole Delga qui, comme toujours, a dit qu'elle veut faire des choses, mais bon, finalement, elle ne fait pas grand-chose.
Je crois que Karim Bouamran les a tous réunis pour essayer de trouver une voie commune.
Exactement. Karim Bouamran, qui est le maire de Saint-Ouen, qui a monté aussi un mouvement en dehors du parti, ouais. Veut appeler tous ses opposants-là à Olivier Faure à se réunir. On a appris aussi dans les colonnes de l'Opinion que... Laurence Rossignol et Jérôme Guedj s'allient à Philippe Brun, également, qui a aussi envie de déposer un texte. Bon, tout ceci réuni, à la fin des fins, qu'on se dise les choses, Olivier Faure a de grandes chances de gagner ce congrès.
Ouais, je pense aussi.
Parce que tous les nouveaux adhérents qui ont rejoint le Parti Socialiste depuis maintenant 2022 sont des partisans de la logique unitaire défendue par Olivier Faure, celle de la NUPES, celle du NFP. Donc, en réalité, il y a peu de chances qu'Olivier Faure perde ce congrès. Mais au-delà de ça, il faut faire le constat que la stratégie qui a été défendue par ses opposants a échoué, voilà, et qu'elle a en réalité une grande incidence, celle de la fracture du NFP et aussi de la déception de beaucoup d'électeurs socialistes.
On verra. Enfin, tu dis qu'elle a échoué. Tu vends le bébé pour te faire battre. Non, je ne sais pas ce que c'est
l'exception. Oula, c'est drôle de pratique.
Tu vends la peau de l'ours de la carpe que tu embrasses.
Ça doit être ça.
Non, on verra au congrès. Parce que on peut être surpris aussi. Le dernier congrès, celui qui s'est fini à 50-50, là, c'était pas gagné que ce soit fini à 50-50. Moi, je suis d'accord avec toi sur cette logique. Et j'en avais parlé avec Olivier Faure qui m'avait dit... les nouveaux adhérents, ceux qui n'avaient pas pu voter au précédent congrès, bah, ils sont plutôt pro-NUPES et pro-NFP, donc il y a de fortes chances que ça marche.
Ah, ça, j'en suis sûr à 90%.
Le truc, c'est que c'est pas le seul. C'est pas les seuls à voter. Il y a aussi des adhérents
plus
anciens et qui peuvent être tentés par un Philippe Brun, qui peuvent être tentés par un. Après, bon, on sait tout ce que c'est un pré-congrès. Là, on est en phase de pré-congrès du PS, donc chacun sort sa tribune dans
les
l'IB.
Les contributions.
Les contributions, la tribune dans l'IB, dans le Nouvel Obs, etc.
C'est un game, hein, le social.
Non, ça, c'est une histoire, c'est un délire. Après, il y aura les textes d'orientation qui vont venir, vous allez voir, ça va être génial. Et il va y avoir des fusions, il va y avoir des regroupements, il va y avoir machin. Je ne sais pas à combien on va se retrouver à la fin de candidats sérieux avec des motions sérieuses pour être majoritaire au Conseil national. Mais je pense qu'une partie de l'avenir de François Bayrou se joue dans le congrès du PS et dans le congrès des Républicains. Parce que là aussi, il y a un enjeu que je trouve assez, intéressant. Avant de parler des Républicains, tu voulais rebondir sur le PS encore, Romanek ?
Non, mais en fait, il y a Karim Bouamran qui rêve de cette grande réunion de tous les opposants. Je ne pense pas qu'en réalité, elle se fera parce qu'il y a aussi, on en parlera aussi peut-être après, mais il y a aussi la logique de l'élection présidentielle qui se joue dans tout ça.
Bien sûr.
Et que tout le monde a aussi des ambitions personnelles et que tout le monde est motivé surtout par ces ambitions personnelles-là. Mais tu vois, il y a ce truc d'alliance un peu contre nature, tu vois. Il y a plein de gens qui étaient par exemple très hypés par le discours que tenait Philippe Brun par exemple ici sur ce plateau il y a un an sur le fait de faire vivre la ligne de la classe populaire au sein du Parti Socialiste. Mais quand tu le vois aujourd'hui par exemple, moi par exemple si j'avais été aujourd'hui adhérent du Parti Socialiste, ce n'est plus le cas, Dieu merci, de le voir s'allier par exemple à une Laurence Rossignol printemps républicain plus compatible, bah désolé Philippe, mais tu peux avoir tout le bon discours du monde sur la ligne, sur les classes populaires, mais en réalité, j'ai pas envie de voter pour Watt, tu vois. Et donc, c'est pas forcément... Là, ça va être des alliances pour des ambitions, en fait, plus qu'autre chose, pour gagner ce congrès. Et c'est peut-être, en fait, le problème, d'ailleurs, du parti, depuis des années. Avant, l'aile gauche du parti, c'était une opposition à l'Europe libérale, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, en réalité, c'est juste des... petits positionnements, des petites strates politiques, en fait, plus qu'autre chose. Et je pense qu'il y a besoin de lignes politiques. C'est le problème du Congrès, pour moi.
Un cap clair.
Un cap clair.
La ligne politique, bah, d'ailleurs, c'est ce qu'a promis comment il s'appelle, Boris Vallaud. Alors lui, pour le coup, il veut tout refaire du sol au plafond au Parti Socialiste. Ils font le coup à chaque fois hein, quand ils se présentent au Congrès, c'est normal. Mais de dire qu'il faut un travail doctrinal sur ça veut dire quoi être socialiste au XXIe siècle dans le contexte qu'on connaît. Et donc, je ne sais pas si le Parti Socialiste aura l'occasion d'avoir cette discussion-là dans le cadre de son congrès ou si ça se traitera plus tard dans le cadre, effectivement, de l'élection présidentielle avec ou pas une forme de primaire, avec qui, comment. On aura l'occasion de refaire un milliard d'émissions Brexit d'ici là pour discuter de tout ça. De l'autre côté du spectre de François Bayrou, il y a les Républicains. Les Républicains qui sont lancés dans un congrès, c'est assez paradoxal ce qui est en train de se passer aux Républicains parce que Laurent Wauquiez a refusé de rentrer au gouvernement de Michel Barnier alors qu'on lui proposait Bercy quand même, c'est pas dégueulasse. Et Laurent Wauquiez a préféré rester en dehors du gouvernement, à la tête du parti, pour garantir sa chance à lui d'être candidat à l'élection présidentielle. Et Bruno Retailleau, président du groupe au Sénat des Républicains, a pu aller au gouvernement. Et Laurent Wauquiez ne voyait pas du tout Bruno Retailleau comme une menace. Bruno Retailleau est un homme plutôt discret, pas du tout du genre à faire de la politique de premier plan, etc. Et là, patatras, Bruno Retailleau fait de la politique de premier plan. Il est très populaire à droite et à l'extrême droite. Et ça devient un concurrent. Et ça devient tellement un concurrent que Bruno Retailleau se déclare candidat au Congrès contre Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, pris de court, déclare sa candidature 2 jours plus tard et on se dirige vers une nouvelle guerre des chefs à droite entre un Bruno Retailleau très populaire à l'extérieur, un Laurent Wauquiez très populaire chez les siens, très détesté chez ses adversaires au sein de son propre parti. Et là aussi se joue l'avenir, je pense, du gouvernement de François Bayrou. Émilien, t'en penses quoi ?
Effectivement, c'est un peu... Parce que finalement, comme ils sont à peu près d'accord sur la plupart des sujets, ils sont tous les deux tenants d'une ligne un peu... dur, si on peut dire ça, de manière très très euphémisée, et qu'il n'y a pas de projet vraiment pour le parti, son fonctionnement qui est vraiment sorti pour l'instant, si ce n'est des choses habituelles, consultation des adhérents, tout ça, territoire, il faut se différencier sur, et notamment ce qu'a trouvé Laurent Wauquiez, sur l'action de la participation au gouvernement. Alors, il n'est pas question de la remettre en cause frontalement, mais c'est à quel point est-ce que les Républicains pourront être un parti qui a une voix indépendante dans le gouvernement et qui sera capable de, y compris, porter une voix dissonante. Donc, par exemple, sur le sujet de Régalien, comme c'est Bruno Retailleau qui est ministre, bah, il n'est pas tellement question vraiment de dissonance. De toute façon, la courroie de transmission, c'est un toboggan, on va dire, des attentes de la base radicale de LR vers le ministre. Les sénateurs sont là pour faire le relais, donc il n'y a pas de dissension. Il n'y a pas tellement question de dissension évoquée. Non, dit non, il faut qu'on soit un parti qui puisse avoir des positions différentes et jusqu'à aller presque... C'est un peu vicieux d'ailleurs, pousser Retailleau à démission en disant « bon, ça y est, l'Algérie n'a rien fait, il est temps de démissionner pour ce qui
Et il attaque fort, hein,
ce qui l'arrangerait bien, évidemment. Donc, c'est un bordel sans nom, parce que là, il s'accuse encore de Wauquiez, des soutiens de Retailleau de soutenir la primaire. Copé dit « mais c'est encore tes vieilles infox et tout, tes vieilles intox ». Donc, il le dit publiquement, il n'a plus rien à faire. Donc, c'est sur cette question-là que ça se pose. Mais c'est essentiellement des questions de personnalité, en fait. Et quand les différents membres des Républicains annoncent leur ralliement, généralement, à Retailleau, c'est des questions de personnes et de caractères qui reviennent en question, notamment parce que celui de Laurent Wauquiez n'a été diversement apprécié lors de sa dernière présidence entre 2017 et 2019.
Affaire à suivre du côté des Républicains. Je crois que leur congrès est au mois de mai.
Oui, genre le 17-18 mai, je crois.
Un peu comme les socialistes, à peu près au même moment. Les socialistes, c'est un tout petit peu plus tard qu'on aura les résultats finaux.
À Nancy.
C'est à Nancy cette année
Très bien. Enfin, Olivier Faure le propose là au Bureau national dans quelques jours.
D'accord.
À LR, ce sera nulle part.
Je reviens, Lorraine, sur à gauche. On en a assez peu parlé. Raphaël Glucksmann a fait la rentrée de son parti, Place Publique. Son écurie personnelle, on peut le dire comme ça, avec Aurore Laluc. Mais bon, voilà, c'est l'écurie de Raphaël Glucksmann. Il a fait sa rentrée. Alors, l'extrait qui a le plus tourné, qui a fait marrer tout le monde, c'est jusqu'à la Maison Blanche, c'est quand il demande le retour de la statue de la liberté en Europe. Mais indépendamment de cette anecdote-là, tout le reste de son discours, il disait quoi, Glucksmann? Il se positionne comment?
En fait, moi, ce que j'ai retenu de Glucksmann, c'est surtout qu'il se positionne surtout anti-union et surtout anti-union avec LFI.
Surtout anti-LFI.
Surtout anti-LFI, en réalité. Et que j'ai l'impression qu'il drague les socialistes pour être potentiellement leur candidat en 2027. Mais en fait, on ne comprend pas très bien, à part le fait d'être anti-LFI, quelle est sa position, en fait, finalement. Donc, je ne vois pas, quel argument, mis à part le fait qu'il n'est pas au PS, il pourrait mobiliser pour être candidat. Après, il y a effectivement le score de son parti et de son alliance au Parlement européen. Mais est-ce que ça a vraiment encore du sens pour 2027? Je ne suis pas sûre. Surtout qu'entre-temps, on oublie aussi, il y a 2026, c'est un micro-parti, ils n'ont pas vraiment d'ancrage territorial non plus. Après, s'ils sont aidés du PS, pourquoi pas? Mais moi, je comprends vraiment pas son positionnement. En fait,
je suis d'accord avec toi. Le truc de Raphaël Glucksmann, c'est qu'il est très bien identifié sur les sujets européens. Il a été deux fois tête de liste aux élections européennes. Donc, il est assez bien identifié sur les sujets européens. Il est pro-Europe, ça tout le monde l'a compris.
Ou même internationaux avec l'Ukraine,
etc.
Il est
très pro-ukrainien, tout le monde l'a compris. Il est très anti-Chine avec sur les Ouïghours notamment. Très bien, mais effectivement, une stature de présidentiable, il y a aussi besoin de développer un discours quand même sur un certain nombre d'autres sujets sur lesquels Raphaël Glucksmann est très mal identifié.
Il
a le temps d'ici à 2027, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, doctrinalement, c'est quoi le glucksmanisme?
Ouais, sur le social, on ne sait pas très bien quelle est sa position.
Ouais, sur les retraites, sur le social, le pouvoir d'achat, l'organisation, l'entreprise, l'emploi.
Et on parle d'une expertise aussi sur l'international. Désolé de revenir sur le sujet Gaza, mais on l'a eu, on l'a trouvé, un peu plus timide, disons, sur le sujet.
Ouais. Encore un sujet international.
Encore un sujet international, voilà. Mais purée, en fait, ça me fait penser à Ruffin, qui était premier ministrable avant son passage dans Brexit l'année dernière. les gars, arrêtez de penser à vos ambitions, putain, vous vendez des ambitions, en fait, sans vision globale. On ne sait rien, en fait, de Glucksmann en dehors des sujets européens. On ne sait rien, en fait, parce qu'il ne s'est aussi pas exprimé dessus. Pas parce que nous, on n'a pas par feignantise et tout, mais...
Il y en a que ça n'a pas empêché de devenir président de la République.
Ah, malheureusement. Ça, c'est...
Je veux dire, de ne pas être très, très solide sur le fond et sur tous les sujets, etc. Donc,
ça, je te rejoins.
C'est le drame de l'élection présidentielle qui se joue aussi beaucoup sur un profil, une énergie, un élan.
Ouais, mais une énergie, un élan chez Glucksmann, je ne vois pas, hein. Ah non, moi après, j'ai l'impression... Non,
moi non plus. Mais après, ça peut être un nouveau Macron, tu vois, dans le genre hyper séduisant.
Les gens ne veulent que ça, de toute façon.
Moi, j'ai l'impression que... ça, c'est vraiment mon analyse au doigt mouillé. Hein. Mes potes bourgeois, quand je leur demande, tu vois, qui comme candidat à gauche
me
en 2027, je te jure que... Je vais pas dire qui, mais il y en a qui m'ont dit ça. Et j'étais assez choquée, mais j'écoutais les arguments et ils me disaient « Non, mais enfin voilà, il fait un peu consensuel. Pourquoi pas ? Il n'est pas détestable. »
Le monde va mal. Hein.
Non, mais, j'ai hurlé quand on m'a dit ça, mais et c'est plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Je me suis dit « Ok, je vois pas la même chose que vous voyez, mais pourquoi pas ?»
Je vous rappelle que c'est Hollande qui a gagné la primaire en 2011.
C'est vrai.
Non, mais on sait être surpris.
C'est vrai.
Il a gagné la primaire sur un... Ah, contexte un peu spécial, oui, mais il se retrouve face à Martine...
dans le genre gros. Underdog.
Oui, ouais. Mais au moins, il avait dirigé le PS, qu'on sait qu'a priori,
oui, on le connaissait.
C'était celle au moins du PS.
Oui, il était socialiste, ça, c'est, oui, c'est vrai.
Luxman, oui, il était socialiste de l'époque.
Non, mais j'en sais pas. Je... Écoutez, on verra. Mais je dis juste que ça peut être surprenant et que Glucksmann peut faire un score à la présidentielle en grande partie sur sa personne et son
image. C'est vrai qu'on est quand même dans un pays où n'importe qui a deux, trois soutiens qui le poussent un peu veut être candidat à présidentiel.
Bah, c'est ça.
C'est un peu un problème.
Alors, moi, je me demande si le fait qu'ils soient mariés à... Je crois qu'ils sont mariés à Léa Salamé va pas le desservir en termes de storytelling, etc.
Du meilleur général, tu peux le dire plus clairement, Raphaël Glucksmann est aimé par les médias, ça c'est vrai. Il est apprécié, il fait facilement des matinales, alors que politiquement, il ne représente pas grand-chose.
Des votants.
Alors, aux yeux...
Bon, ça, je ne crois pas. Ça,
je ne sais pas.
Tu penses pas?
Non. L'auditeur de France Inter, non. Pas pour lui, il n'y a pas de problème.
Et puis, je pense qu'en fait, ça, c'est un peu limité. On a eu Montebourg, Pulvar, il y a eu Christine Ockrent. Enfin, tout ça, c'est, je pense que, en fait...
Les Français s'en fichent du partenaire.
Les gens s'en tapent, en fait.
Il y a quelqu'un qui demande dans le chat, est-ce qu'il peut avoir 500 signatures, Glucksmann? Ça, c'est vrai.
Ça,
c'est la question qui pique.
Ça, c'est la vraie question.
Ça, c'est la question qui pique.
À l'aide du PS?
D'une partie du PS.
Mais...
Ça veut dire que d'ici là, il y a une facture...
Non, mais ouais.
Effectivement, s'il est le candidat investi par le PS, putain, il faudra qu'il y ait des... évolutions d'ici là. Bah, abonnez-vous et regardez Backseat parce qu'il va s'en passer des dingues. Mais parce que d'ici à ce qu'il soit le candidat du PS à la présidentielle, Glucksmann, il va y avoir des étapes. Hein.
Que des gens poussent au sein du PS pour que le candidat ne soit pas Olivier Faure ou qu'il n'y ait pas une alliance avec le reste de la gauche, en tout cas pas avec les Insoumis, soit. Mais je ne vois pas trop non plus de socialistes me dire oui, il faut que Glucksmann soit notre candidat en 2027. Non. Et si ton ambition pour 2027, c'est juste parce que tu as Aurore Laluc à ta gauche et Pierre Delaconta à ta droite qui te pousse à aller à la présidentielle, franchement, il va falloir commencer à se poser des questions sur notre système politique en France. Hein.
Ah bah on peut déjà se poser des questions.
Je pense que
Eric Zemmour a été candidat à l'élection présidentielle,
oui.
Tu vois.
Oui.
Donc, Et Asselineau.
C'est vrai. Non, comme quoi,
Donc,
les 500 signatures.
Et Cheminade, genre deux, trois fois, je crois.
Ouais. C'est un peu particulier quand même. Je regarde un peu les questions, parce qu'on est parti loin quand même.
Oui, c'est vrai que là,
eux aussi.
On s'est projeté
dans un Glucksmann candidat.
Il y a un mec qui a dit que Pierre Delaconta est parti au PRG depuis un mois, et ça me fait rire. Ça me fait rire.
Dans le reste de la gauche, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a les écologistes qui eux aussi organisent un congrès au cours duquel Marine Tondelier, l'actuelle secrétaire nationale sortante, est candidate à sa propre succession. Elle est challengée, de ce que j'ai vu, par Karim Adeli. Y en a d'autres ou pas? Ou j'ai raté des candidatures ou
je sais pas.
En tout cas, Karima et Adeli est celle qu'on entend le plus en ce moment.
Ouais.
En opposant à Marine Tondelier.
Vous me dites si je dis une énormité, mais j'ai l'impression que Marine Tondelier n'est pas très en danger dans ce congrès des écologistes. Marine Tondelier ne fait pas l'unanimité au sein de son parti, c'est pas ce que je dis, mais c'est qu'elle a quand même une assise assez solide dans un parti qu'elle a réussi à réancrer, dans laquelle elle a réussi à se faire très identifier, y compris médiatiquement, après des scores tout à fait passables aux élections présidentielles puis européennes.
Alors, les dernières européennes, quand même, petit accident de parcours.
Oui, justement.
Oui.
Quand je dis score passable.
Voilà.
Dans un parti qui fait des scores assez dégueulasses, Marine Tondelier réussit, aux yeux des militants, à au moins sauver les meubles, à paraître, exister, être là. Oui, c'est ça. Elle a gardé un groupe à l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas dégueu. Il y a un groupe au Sénat, ce qui n'est pas dégueu. Et puis, il y a les mairies.
Il y a
les mairies que les écolos ont bien l'intention de défendre.
Mairie qu'il va falloir garder, ça déjà c'est un vrai challenge. Mais en fait, au-delà des urnes, du score dans les urnes, c'est vrai que Marine Tondelier a réussi à remettre quand même les verts dans le jeu à gauche. Ils subissaient en réalité le jeu des discussions et des accords qui se faisaient sans eux, et elle a réussi quand même un petit peu à être force motrice, tu vois. On l'entend en tout cas, tu vois. Et ça, ça, en vrai, on peut le mettre à son palmarès. Après, bah oui, il n'y a pas gros challenge. C'est un peu un non-événement, là, le congrès des écolos, qu'on se dise les choses.
Moi, j'ai l'impression aussi, on va quand même regarder, c'est quand même assez intéressant. Les écologistes ont toujours été tiraillés entre plusieurs lignes, plusieurs tactiques, plusieurs stratégies. La ligne de Marine Tondelier, qui est d'être le point de pivot à cheval entre le PS et la France insoumise, d'être un peu une position, disons, centrale dans le NFP. Je pense notamment à son amitié publique avec Lucie Castet. Mm-hmm. Est-ce que c'est une ligne que les adhérents des écologistes ont envie de garder, ou est-ce qu'ils ont envie de se rapprocher du PS? Je pense notamment aux écolos dans les municipalités dans lesquelles ils ont besoin des socialistes pour se faire élire, donc ils sont bien contents d'être copains. Mm-hmm. Et d'autres militants insoumis qui sont plutôt sur une ligne proche de celle de la France insoumise. Et qui cherche plus de radicalité. Voilà, il y a toujours eu des tensions au sein de la famille écologiste. Pour l'instant, Marine Tondelier réussit à garder un équilibre. Je suis d'accord, je pense qu'elle n'est pas vraiment en danger dans ce congrès, mais il peut toujours y avoir des accidents, quoi.
C'est clair.
Donc voilà.
Affaire à suivre.
Dans le reste du champ politique, il y a la France insoumise qui est un peu dans la sauce ces dernières semaines, ces derniers jours, notamment suite à la publication d'une affiche sur les réseaux sociaux appelant à manifester le 22 mars contre le racisme, avec, voilà, vous la voyez, ce fameux visuel qui a beaucoup circulé, même si la France insoumise l'a très vite dépublié, qui représente Cyril Hanouna en reprenant un certain nombre de codes iconographiques de l'antisémitisme. Ça a gueulé très très fort contre la France insoumise, évidemment à l'extrême droite, l'occasion était trop belle, mais aussi dans le reste du champ politique, partout à gauche, la France insoumise est un peu empêtrée dans cette histoire, parce que ils ont été nombreux à reconnaître une erreur, notamment Manuel Bompard, le coordinateur national, Paul Vannier et d'autres, et Jean-Luc Mélenchon, lui, à deux reprises, fidèle à sa ligne, pas d'excuses, pas de regrets, on ne fait pas d'erreurs. La France insoumise semble quand même assez isolée à gauche, à l'orée d'une manifestation dans deux jours, plutôt unitaire, dans toutes les organisations syndicales, associatives, etc. C'est un accident de parcours pour les insoumis ou pas ? Moi, je pense que les militants insoumis n'en voudront pas au parti, comme d'habitude, oui. Et que ceux qui n'aimaient déjà pas la France insoumise l'aiment toujours pas. Mais je ne sais pas si ça va faire bouger les lignes.
Alors, je ne pense pas que ça va faire bouger les lignes, mais en tout cas, c'est sûr que ça n'aide pas. Alors, l'ancien chroniqueur de chez Cyril Hanouna que je suis... questionné sur Twitter sur cette affiche. J'avoue qu'en ce moment, je ne veux pas trop non plus des masses m'exprimer. C'est une énorme erreur. C'est une affiche qui appelle à l'image antisémite et l'image, c'est ce que je disais ce matin avec un pote, l'image antisémite est un de l'angle principal en fait, du discours antisémite. Donc, il faut le dire. Le fait que Manuel Bompard, que Paul Vannier aient dit... sans trembler en réalité que c'était une erreur, je pense aussi que c'est une bonne chose. Je pense sincèrement, du moins j'espère, que ça relève plus de l'ignorance ou de la bêtise, de la négligence, plutôt que de quelque chose de volontaire. Parce que je sais aussi, j'ai parlé avec beaucoup d'insoumis ces dernières semaines, je sais que ça les avait beaucoup blessés en réalité d'être accusés à tort d'antisémitisme. Et je sais ce que c'est. Moi, quand j'étais chroniqueur chez Hanouna, Jean Massier, mais Jean Messia, quelqu'un qu'on n'aime pas.
Ah, l'autre, pareil, ouais, pareil. J'en ai entendu parler vaguement.
Attention.
Jean Messia m'avait accusé à l'antenne, comme ça, très gratuitement, d'être un antisémite islamiste. Et je sais à quel point c'est douloureux, parce qu'en fait, ça insulte des combats, des valeurs. Je ne pense pas que ça va bouger grand-chose. Juste moi, ce qui me fait de la peine, c'est que... à la base, cette affiche... En fait, on se détourne en réalité du véritable sujet, qui est la marche de samedi.
22, ouais.
Qui n'est pas qu'à l'appel de la France insoumise, mais qu'à l'appel d'organisations syndicales.
De centaines d'organisations
syndicales, politiques, d'associations, avec un appel que beaucoup de personnalités... Il y avait le camarade Duzul a signé cet appel, j'ai signé cet appel, on est beaucoup à l'avoir signé, parce qu'en fait, il y a un ras-le-bol de ce discours dans la classe politique et dans les médias, de ce discours raciste d'extrême droite. Et en fait, ça m'attriste en réalité qu'on se détourne du vrai sujet. Le combat contre l'antisémitisme est un vrai sujet et il n'y a pas de débat. Cette affiche n'a pas lieu d'être et ne devait pas exister. Mais la marche de samedi, elle aussi, j'aimerais qu'on en parle. Quoi, parce que,
elle est importante, cette marche de samedi pour la gauche, qui a besoin de reprendre le flambeau, effectivement, dans la lutte contre l'extrême droite, qui aujourd'hui ne fait qu'engrainer des victoires les unes après les autres, et ça devient terrifiant en France et dans le monde entier. Mais pour autant, je reviens sur la France insoumise, je trouve ça intéressant aussi... l'espèce d'infaillibilité pontificale qui existe dans un parti qui refuse de s'excuser, qui refuse de reconnaître la moindre erreur. Je parle notamment de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on a bien vu que Manuel Bompard lui reconnaissait qu'il y avait des conneries, etc., que d'autres aussi. Mais c'est une doctrine à l'intérieur de ce parti. On ne s'excuse pas, on ne peut être que victime d'attaques, on n'accepte pas la critique, puisqu'on ne peut être qu'attaqué. Et je me dis, mais putain, combien de temps ça peut durer? Combien de temps ça peut tenir cette absence de dialogue en interne, quoi. Je sais pas. Ça curieux.
Ouais, bah en fait, Lorraine. Déjà, tout à l'heure, on a parlé des congrès. En l'occurrence, LFI n'a pas de congrès. Mais je trouve que ça dit quand même beaucoup de leur fonctionnement interne. Et moi, je pense que le fait que justement, il n'y ait pas d'excuses et il y a un sentiment, notamment pour Jean-Luc Mélenchon, de se sentir attaqué, je pense que c'est une réalité aussi dans les médias où LFI est constamment attaqué. L'antisémitisme, là pour moi, c'est factuel, il y a aucun débat là-dessus, et effectivement même Manuel Bompard l'a reconnu, etc. Mais on en était à un moment à plus accuser LFI. En tout cas, pointer l'antisémitisme chez LFI que chez le RN.
Le RN qui s'en donnait à cœur joie était trop content.
Exactement. Et je pense que ça, c'est une musique justement qui a pris énormément chez les gens et qui a abîmé, pour moi, durablement l'image d'LFI. Donc, je comprends aussi ce sentiment de se sentir attaqué, y compris médiatiquement, etc. Après, est-ce que ça ne dessert pas de ne pas reconnaître aussi quand il y a des erreurs? Moi, je trouve que si. Mais voilà. Et en plus, d'ailleurs, pour les personnes qui se sont données également à cœur joie pour attaquer LFI, quand on parle aussi de congrès et de démocratie interne, c'est les anciens, ce qu'on appelait les anciens purgés, notamment Alexis Raquel Corbière. Garrido et...
Alexis Corbière.
J'ai pas vu ce qu'il a dit, mais Clémentine Autain, surtout. Par exemple, il y a Raquel Garrido. Donc, je vais vous passer les insultes. Mais en gros, elle cible directement la responsabilité de Manuel Bompard, Sophia Chikirou et Bastien Parizeau. Il y a également Clémentine Autain qui a fait un long post Instagram qui vise directement la prise de parole de Mélenchon pour dire que c'est pas dans notre culture l'antisémitisme, que c'est une grave erreur, etc. Et qui se sont donnés à cœur joie pour aussi réaffirmer entre guillemets que on n'est pas chez LFI, on n'est pas comme eux, etc. etc. Donc moi, sincèrement, je m'inquiète pour l'image d'LFI en réalité, parce qu'on sait que dans ce pays, la communication, ça compte énormément. Et là, qu'il y ait cette communication qui soit passée et qui abîme autant leur image, alors même que pour moi, le sujet de la marche de samedi, c'était justement un sujet hyper important à gauche et qui était le moment de faire front commun. Moi, je commence à m'inquiéter pour LFI un petit peu, ouais.
C'est pour ça que la stratégie qui avançait souvent de dire, en fait, parfois il faut se faire choquer, on ne s'excuse pas, c'est le combat culturel. À un moment donné, le fait est que, on pourrait dire, on reproduit la même chose ici, mais le fait est que quand vous avez ce genre de communication, alors que tout le monde devrait être sur le qui-vive, parce qu'il y a des gens qui gardent des dossiers comme ça, de précédents, dérapages antisémites, etc., de LFI, tomber là-dedans, et en plus faire en sorte que la polémique, de ne pas arriver à éteindre la polémique, dessert justement ce qui devrait être pour eux le vrai combat culturel, qui est justement ce genre de combat contre le racisme, l'antisémitisme, et les deux étant liés. Et quand on voit par ailleurs Mélenchon, c'est quand même assez... assez éberlu de voir son propos sur l'affaire. Il dit, j'en parle, oui, d'accord, mais à un moment donné, il y a quand même un sujet sur lequel il y a une base quand même à tout ça. Et puis par ailleurs, il explique, ces gens-là, ils avaient des affiches chez eux de leurs grands-parents, de ces mythes, nous, on n'en avait pas. Il a quand même 70 ans de culture politique derrière lui, il sait ce que c'est une affiche antisémite. Et quand il explique à la fin que les patrons de presse ou les capitalistes, tout ce qu'ils rêveraient, c'est... s'il le pouvait, c'est de couper les cheveux des gens pour faire des édredons, ce qui est quand même ce que faisaient les nazis dans les camps. Je veux dire, ce n'est pas possible, en fait. Je serais militant NFI, je m'arracherais les cheveux, sans mauvais jeu de mots, de ça, de me dire, ok, faut pas s'excuser, ok, on a attaqué, ok, les médias et Pascal Pro, Hanouna, tout ça, mais à un moment donné, soit on accepte, et dans ce cas-là, on se fait marginaliser à vie, soit à un moment donné, on fait attention, même si c'est pas juste, Et on évite ça et on fait en sorte que, les gens enfin, qu'on puisse parler de racisme sans que les médias disent ah, mais vous avez vu LFI l'antisémitisme.
Ouais, être irréprochable comme en matière de.
Bah, mine de rien, oui, c'est peut-être injuste, mais il le faut aussi.
Quand on porte un programme féministe, il faut être irréprochable sur le VSS. C'est une phrase qu'on a beaucoup entendue au moment de l'affaire Adrien Quatennens. Quoi qu'il en soit, en fait, l'un des problèmes aussi, c'est que ça fait peser du coup sur cette manifestation du 22 mars un espèce d'image d'antisémitisme un peu dégueulasse qui dit
oui, mais même CNews les gens qui vont manifester de CNews a dit tous ceux que personne sont antisémites non c'est quand même
je suis convaincu que CNews va nous faire un bandeau samedi avec écrit manifestation antisémite à Paris. Alors là ils vont s'en donner à cœur joie.
Imagine pour les signataires de l'appel des gens comme moi ce qu'on reçoit là depuis quelques jours tribune que j'ai reçue avant ces caricatures que j'ai donc dans le fond accepté de signer avant ces caricatures.
Pourquoi t'aurais pas signé si t'avais vu les caricatures parce que c'est pas la même
chose. Mais c'est pas du tout la même chose parce que
la tribune c'est attends excuse-moi mais l'appel c'est pas un appel de LFI.
Non.
C'est un appel de l'inter.
De plusieurs personnalités qui ont été en réalité appelées par différentes organisations.
Oui, oui. Ok d'accord. Oui donc tu signes pas la communication d'un parti. T'es pas.
On signe une tribune en tant que collectif de personnalités.
Ouais. Ok d'accord. Affaire à suivre en tout cas donc cette manifestation qui aura lieu samedi donc ce samedi 22 mars. Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir énormément de monde on l'espère tous.
J'espère, vu le contexte international, vu la montée du fascisme, j'espère.
Une manif serait pas trop. On se rappelle quand même pour mémoire, 2002, accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, des centaines de milliers de manifestants spontanés dans les rues le samedi suivant. Il a déjà existé des marées humaines antifascistes en France et ce serait bien qu'on en fasse une nouvelle.
D'autant plus qu'on sait que chaque génération est plus tolérante que la précédente et du coup il y a un hiatus qui se crée avec des discours politiques et médiatiques dominants. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura une grosse mobilisation, mais en tout cas je ne pense pas que ce qui se dise partout dans les médias reflète, et les polémiques reflètent forcément ce que pensent les gens et bon, du coup ce serait bien de montrer que ce n'est pas le cas.
Affaire à suivre en tout cas.